voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Barbara Hendrix. Ce soir, la musique au service des droits de l'homme.
Barbara Hendrix, on va converser sur un autre sujet qui est très important pour vous, c'est votre engagement. Engagement pour la vie, engagement pour les autres, quelque chose qui évidemment remonte à très loin, ce face-à-face avec l'injustice que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Tout ça, ça s'est transformé en quelque chose d'autre parallèlement à votre vie musicale, quoique à certains moments, les deux fusionnent entre le chant et l'engagement. On parlera peut-être de l'exemple de Sarajevo ou d'autres, mais expliquez-nous comment cet engagement fait partie de votre vie.
C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Je dis, mais cet engagement, comme le chant m'a choisi. Pas le fait que je suis née. Et quand je suis née aux États-Unis, dans un endroit qui avait vraiment un vrai apartheid, je dis, dans tout qui était public, les hôpitaux, les écoles, les restaurants, les hôtels, même les toilettes dans les stations-service, les fontaines d'eau, dans tout. Et je crois que aussi, je dis, comme beaucoup d'enfants, on reconnaît l'injustice qu'on trouve quelque chose qui est injuste dans la vie. Ça peut être juste dans la famille. Mais ici, et bien sûr, j'étais inspirée par le courage des gens qui ont lutté pour les droits civiques aux États-Unis. J'étais témoigne de ça. Mais plus tard, je suis impliquée contre la guerre en Vietnam, aussi pour les droits des femmes. Et c'était naturel pour moi. Bien entendu.
Et à un moment donné, vous avez décidé de mettre votre notoriété au service, notamment des réfugiés, en acceptant une fonction qui prend du temps, celle d'être ambassadeur, ambassadrice de bonne volonté au comité pour les réfugiés qui dépend de l'ONU. C'est une institution, et finalement, vous y avez fait, d'une certaine manière, entre guillemets, une carrière. Vous êtes vraiment engagé auprès de cette institution. Est-ce que vous pouvez nous raconter surtout, comment s'est fait cette connexion, cette rencontre entre cette personne qui avait décidé d'installer ses ambassadeurs?
Bon, le siège de l'HCR, c'est à Genève. Et après 10 ans à Paris, je suis allée m'installer auprès de Lula Clément à Montreux. Et après quelques mois, on a reçu un coup de fil de quelqu'un de l'Archea qui a demandé de me rencontrer. Il s'appelle Léon Davicho, il est venu de me parler du fait que l'HCR, dont je connaissais très mal, comme beaucoup de monde, aller essayer de suivre l'exemple de UNICEF, d'avoir des ambassadeurs parce que ils ont senti la nécessité d'aller vers le public parce que les gouvernements, qui étaient les seuls donateurs qui donnaient de l'argent au HCR, commençaient de diminuer les donations qu'ils ont données. Ils ont regardé un peu qu'à côté, que UNICEF aussi avait une partie de l'action vers le public et l'opinion publique. Et bon, ils voulaient essayer de faire. C'était assez difficile parce qu'il y avait certains dans l'organisation qui trouvaient que toute l'énergie et tout l'argent qu'ils avaient devait aller dans les actions sur le terrain. Mais d'autres qui avaient dit, mais quand même, si on n'a pas assez de fonds, on ne peut pas faire des actions sur le terrain. Et bon, ils m'ont parlé de l'HCR, ils m'ont donné beaucoup de choses matérielles à lire. Et moi, j'ai vu que toutes les choses que j'avais faites, toutes les expériences que j'ai eues concernant les droits civiques, que j'aurais la possibilité de mettre en œuvre le fait que moi, je trouve que la Déclaration universelle des droits humains donne la possibilité pour tout le monde d'exister avec leurs différences, avec le respect pour l'autre, sans faire la guerre, sans faire la barbarie. C'était pour une année seulement. Une année. Je dis bon, j'accepte. Et maintenant, l'année prochaine, ça sera 30 ans. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, j'ai vu autour de moi, on a lutté pour les droits des femmes, il y a aussi pour les droits des homosexuels, et des gens handicapés, tout le monde. Je dis, mais nous sommes plusieurs à lutter pour nos droits. On doit avoir quelque chose où tout le monde est inclus. Parce que si je lutte que pour moi, ça veut dire que peut-être, bon, demain je vais gagner, lendemain je vais perdre, mais qu'il y aura toujours quelqu'un qui perd. Mais on doit être tous gagnants. Et c'est là, quand j'ai découvert après cette universelle déclaration des droits humains, qui est née la même année que moi, je l'appelle ma jumeau, parce que nous sommes 20 jours après ma naissance, la déclaration a été proclamée et adoptée à San Francisco, le 10 décembre.
En 1948.
Exactement. Et le premier article dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et droits. Ils sont doués de raison et conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà, là je trouve tout.
Concrètement, la distance qui existe entre le discours et la réalité, c'est d'aller sur le terrain, de voir ses enfants, de voir cette détresse. C'est le chant qui vous parle à ce moment-là. C'est avec votre voix que vous essayez de trouver cette lumière entre cette détresse et le reste du monde. Comment pratiquement vous faites ?
Pour moi, je dis, cette action humanitaire, ça commence d'abord en moi. Après, ça commence autour de ma table. Je dis, mon mari, mes enfants, au travail, dans la rue, au marché. Et surtout dans les époques où on voit des choses qui se passent, qui on peut penser c'est trop. Les actes de terrorisme, c'est trop. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis rien dans tout ça. Je peux rien aider. Et c'est ces moments-là qu'il faut vraiment essayer de ressourcer autour de chez soi. D'abord, on peut pas faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde si on n'a pas la paix dans notre cœur. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça commence chez soi. Toujours. Et si, si on ne peut rien faire pour quelque chose, un événement qui se passe, là, on a toujours le pouvoir d'agir là où on est. On a besoin d'amour dans le sens d'une lumière, on va pas prendre tout le monde dans nos bras, ce n'est pas ça que je veux dire, mais de voir l'autre pas comme, de voir l'autre comme moi-même, de voir l'autre comme moi j'aimerais qu'il me voit. Et même quand on arrive en face de cet autre qui est menaçant, il faut toujours voir que c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est difficile surtout quand, oui, c'est plus facile quand tout va bien, et on n'a pas de soucis, on n'a pas, la complexité de la vie n'est pas comme on a aujourd'hui. On peut dire qu'il a 20 ans, c'était plus facile de dire ça. Mais quand ça compte, c'est quand nous sommes dans ces périodes difficile, parce que c'est dans ces moments où il a un sorte de changement, et qui, si on veut que la lumière vienne dedans, il faut que la lumière vienne de nous. Mais si nous sommes enfermés avec la peur, parce que la peur s'enferme, voilà, il n'aura pas de lumière qui va entrer dans ce mouvement, les choses qui sont en train d'ouvrir, de fermer, mais nous sommes dans un, je crois qu'il y a une période de la civilisation ou de grands changements.
Quand vous allez au Vietnam pour essayer de parler aux enfants des Boat People, quand vous allez chanter à Sarajevo, quand vous allez là où il y a de la détresse. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'apporter?
Bon, j'essaie d'apporter un peu d'espoir pour le dire que nous, au HCR, on les soutient, nous sommes là pour les aider, pour les protéger. C'est ça notre devoir. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas du tout, ils savent pas du tout qu'est-ce que j'ai comme carrière, que je chante sur la scène, que je chante l'opéra. Ce n'est pas ça. Des fois, je chante pour les enfants parce que les enfants préparent toujours quelque chose pour nous accueillir, dansent, ils chantent. Et moi, je chante et je danse un peu avec eux, mais pas de chanter un concert. Bon, Sarajevo était un cas différent parce que j'étais invitée par l'orchestre. Mais ce que je vois, c'est que l'esprit humain est beaucoup plus fort qu'on le pense. Surtout les femmes. Les femmes qui gardent une dignité, qui ont du courage, parce qu'ils ont les enfants, elles ont des responsabilités. Les situations qui sont difficiles pour nous d'imaginer, et quand même, elles restent humaines. C'est extraordinaire. Elles m'inspirent. Surtout quand je peux être un peu, avoir un peu des espoirs de dire, oula, c'est trop. Et je pense à les femmes que j'ai rencontrées. Je pense à les femmes que j'ai rencontrées qui sont peut-être toujours dans un camp de réfugiés. Parce que les conflits chez eux sont tels qu'ils ne peuvent pas retourner chez elles. Et n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Je me souviens d'une femme, elle devait avoir entre 55 et 65, qui parlait que la langue de son pays, pas d'éducation, même que chez elle, elle avait sa maison, son mari, ses enfants travaillaient, son fils travaillait, elle m'a dit, moi j'avais une très jolie maison à Mogadiscio, mais après la mort de mon mari, qui était tué dans un attentat à l'hôtel où il travaillait, j'ai perdu un de mes enfants, mes fils. J'ai pris mes deux autres et je suis partie à pied. Mais quand même, je dors sous ce lit de béton. Mais je sais que demain matin, mes fils sont vivants à côté de moi. Voilà, je dis que la vie nous apporte différentes choses. Et la tâche, c'est de rester ou de devenir un être humain.
Que vous inspire ce monde d'aujourd'hui où les réfugiés comptent désormais par millions, où cette terre est devenue une planète d'immigration permanente, où aux Amériques et en particulier aux États-Unis, la vision politique de ce pays se réorganise totalement. Que vous inspire ce monde d'aujourd'hui?
Oui, je dis comme... Bon, quand les choses se passent, on a des moments du choc et on a eu plusieurs récemment. Des attaques terroristes ici en France, en Belgique, ailleurs, la guerre en Syrie, des conflits. Moi, je rencontre les gens qui échappent des situations dont on parle même pas dans les médias. Et comme vous dites, la situation aux États-Unis et ici en Europe. Le populisme, le refus de l'autre. Je dis que c'est un moment où vraiment ceux qui ont la force et la lumière, il faut qu'on continue de lutter, qu'on continue de montrer que la haine et la peur gagneront. Des fois, un petit moment, mais jamais pour toujours. Et il faut continuer d'avoir l'espoir. Parce que moi, je crois dans la vie. Sinon, quelle est la raison que je me lève le matin? Moi, je crois dans la vie. Et j'ai envie de laisser pour mes enfants, mes petits-enfants, un petit brin de quelque chose pour les laisser, qui est pour continuer la lutte.
Vous vous sentez des fois dévasté par l'impuissance, par... l'incapacité des hommes, des femmes, des hommes en général, d'ailleurs, de changer le monde.
Bon, d'abord, je n'ai pas l'arrogance de penser que moi, je peux changer le monde. Et deuxièmement, ma liberté mais pas de donner, pas des autres. Je dis même dans la mort, il n'y a pas quelqu'un qui peut le prendre. Je me souviens d'une histoire, je crois que c'est dans les histoires hindoues, il avait un moine, il avait une armée qui est arrivée, qui a dit, voilà, on va tout prendre et maintenant tout le monde doit être à genoux devant nous. Mais il a un petit moine qui avait refusé. Et bon, ils envoient les soldats, ils disent, mais tout le monde doit être à genoux avant l'empereur, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. Et il a dit, non, je vais pas. Finalement, il a l'empereur qui vient avec son grand sabre. Il a dit, mais il faut s'agenouiller devant moi. Il a dit, non, je ne vais pas. Il a dit, mais moi, je peux vous tuer. Il a dit, et moi, je peux te laisser faire. Voilà.
Dans votre vie, vous avez eu de très belles rencontres et vous avez eu l'occasion d'aller dans un autre pays de l'apartheid, qui est l'Afrique du Sud. Et puis, il y a eu ce moment un peu magique où vous avez été conduit à chanter a cappella « Summertime », je crois.
No, sometimes I feel like a motherless child, yes.
Et à l'occasion d'une rencontre avec Mandela.
C'était pour... je suis allée pour l'investiture de Mandela. Et à l'arrivée, c'était l'ambassadrice de France qui avait dit qu'on se dépêchait, on pouvait aller à la messe. À Soweto. Je dis, mais il faut brosser les dents, changer. Il dit, non, on n'a pas le temps, vous allez laver les mains, mais il faut aller maintenant parce que ça commence bientôt. Parce que c'était toute la nuit, le vol. On arrive et bon, il a fait toute la messe et il avait un chœur qui commençait à chanter. Je lui dis, je reconnais ce rythme, cette musique. C'est d'où vient ces spirituals que je chantais dans l'église de mon père. Et juste vers la fin, le prêtre nous avait présenté, il dit, voilà, les visiteurs qui viennent de France pour l'investiture de Mandela demain, ils sont bienvenus ici. Mais parmi eux, il y a une grande chanteuse. Je dis, mais il parle quoi? Et il dit, il m'a demandé de chanter. Ils m'ont chauffé la voix, je n'avais pas le temps, j'ai juste essayé de dégager un peu. Et là, j'ai chanté « Sometimes I feel like a motherless child ». C'était un moment magique, vraiment. D'abord d'être là, de voir la fin de l'apartheid, que je n'avais jamais pensé voir de ma vie, que ça allait terminer, et que Mandela sera libéré, toutes ces choses. Vous voyez des choses? On peut penser toujours, mais non, ça va être toujours comme ça. Non, il faut avoir l'espoir parce que les choses passent. Moi, je me souviens d'être avec les membres de la quatuor Amadeus Quartet à Prague. Et on avait dit, parce que eux, ils étaient de Vienne, de l'Autriche. Et il a dit qu'on était jeunes, nous on regardait vers Prague parce que c'était une ville très libérale et on regardait et maintenant enfermé derrière le mur, le mur, the iron curtain de fer. On a dit oui, peut-être est-ce qu'on aura jamais de notre vie voir cette ville libre? On n'a pas que. Et voilà, les situations, c'est la même chose pour les situations qu'on voit aujourd'hui. Il faut le croire que les choses pour changer et de jamais perdre l'espoir. Et là, j'étais là pour l'investiture de Mandela comme président de l'Afrique du Sud et je chantais ma musique qui venait de l'Afrique, que je retournais à l'Afrique pour chanter à Soweto. C'était un moment extraordinaire pour moi.
Et le public, comment il a réagi devant cette improvisation?
D'abord...
Parce que vous n'avez pas improvisé.
Oui, moi, je chantais juste comme je chante. Et chaque fois que j'avais chanté une note aiguë, ils font un son qui est un peu comme un oiseau, que moi, je peux pas faire parce qu'il fait ça, c'est très guttural. Et c'était extraordinaire, vraiment, c'était extraordinaire, un moment très précieux.
La question des réfugiés et des migrations en général, c'est une vraie question politique aujourd'hui. J'imagine que vous, Barbara Hendricks, vous n'êtes pas insensible au traitement de ces questions.
Oh, mais bien sûr que non, parce que pour nous, au HCR, on a aujourd'hui 65 millions de personnes qui ont été forcées de quitter le foyer pour les raisons des conflits. C'est énorme. Je crois que c'est la population de la France,
Exactement.
à peu près. Vous imaginez que tout le monde en France était obligé de partir? D'abord, il a l'urgence. L'urgence, les gens qui partent pour sauver leur vie. On voit avec la situation en Syrie qui maintenant plus que 5 ans, les gens dans les camps de réfugiés qui voient que leurs enfants n'étaient pas à l'école depuis 4 ans, qui paniquent, qui disent, well, il faut que je parte de ce camp de réfugiés parce que sinon, la vie de ma fille, de mon fils, c'est foutu pour eux. Et quelque part, bon, d'abord, comme je dis, pour nous, il a cette urgence d'aider les gens qui sont en fuite. Et l'accueil, ce n'est pas le travail là, c'est l'accueil. Parce qu'une fois que les réfugiés sont arrivés, c'est nous, ils sont pas dans les camps de réfugiés. Des fois, ils sont dans les endroits d'accueil. C'est là comme en Grèce. J'étais récemment au mois de juin en Grèce. Et c'est l'HCR qui travaille vraiment dans tous les endroits où se trouvent les camps où les gens sont arrivés. Mais ils sont vraiment dans les mains des administrations des pays où ils sont arrivés. Et l'urgence est grande et on a vraiment des besoins énormes pour aider ces gens. Mais je crois que la question qui est très importante sur ce plan politique, surtout ici en Europe, c'est l'accueil des réfugiés. Je crois que nous sommes dans une situation où nous sommes forcés d'apprendre comment faire pour vivre ensemble. Je ne vois pas d'autre raison que ça arrive comme ça. Comment vivre ensemble, c'était en voyant l'autre comme un membre de cette famille de l'humanité. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque enfant, c'est mon enfant. Chaque femme est ma sœur, chaque homme est mon frère. Et il faut trouver en nous, je crois qu'on a ça en nous, il faut trouver en nous le moyen de le faire, de traiter les gens comme les êtres humains. Vous savez, les gens comme vous, on aime qu'on est chez nous. Et qu'est-ce qu'il aura besoin pour nous forcer de quitter ça? On ne met pas un enfant qui ne peut pas nager dans un bateau si on ne pense pas que c'est plus sûr que la terre qui enfuit. Et moi, je demande les gens d'essayer d'imaginer, c'est difficile pour nous qui habitent vraiment dans les situations plus ou moins aisées, en tout cas, certainement sans conflit, d'imaginer que vous avez 2 heures. Vous devez quitter votre maison avec vos enfants. Vous voulez prendre juste ce que vous voulez prendre dans les bras et partir. Traverser dans un petit bateau et arriver enfin sain et sauf, quel est l'accueil que vous aimerez recevoir pour vous et vos enfants? La seule question. Et là, de trouver les moyens. Voilà, c'est complexe. Comment on va le faire? J'ai vu on avait vu que la Suède, qui avait accueilli beaucoup de monde, plus que les autres pays, on a dû arrêter parce qu'ils n'avaient pas l'organisation pour faire ça bien. Mais quand même, je lui dis, c'est bien aussi de pas les accueillir n'importe comment. Mais ça veut dire qu'il faut s'organiser ici en Europe pour trouver les moyens pour aider ces gens.
Mais Barbara Hendricks, est-ce que vous êtes parfois ou révoltée ou dans l'incompréhension devant l'attitude des gouvernements par rapport à ces flux de réfugiés, à ces bateaux qui traversent la Méditerranée? J'imagine que vous n'êtes pas indifférente à tout ça.
D'abord, je lui dis, ma colère, c'est là où ça commence, d'abord. Et les gouvernements européens qui ont jamais traité le problème des migrations vraiment comme il fallait le faire. Parce qu'ils ont laissé ça devenir un jeu politique, parmi quand même ballon politique. Et maintenant, il faut qu'ils sont à l'auteur de ce problème. Je trouve personnellement qu'on a une sorte de, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais on a une sorte de fléau de médiocrité dans la classe politique. Moi, je ne vois pas des gens qui ont des visions pour l'avenir. Mais il y a aussi, quelque part, les grands changements en général viennent d'en bas, des citoyens. Il faut que les citoyens restent vigilants. Mais ça va peut-être inspirer les gens, nos leaders, qui moi, je crois que c'est une question de génération. Est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi dans une période où les choses étaient calmes, où ils n'avaient pas besoin de se battre? Je ne sais pas, mais je crois que vraiment la médiocrité est flagrante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer et être à l'auteur des problèmes qu'on a. Moi, j'ai l'espoir, parce que je suis née comme ça. J'ai l'espoir parce que je crois que si on est vivant, il faut continuer de lutter jusqu'à la dernière. Je dis respiration. Il faut continuer de lutter et parce que je suis grand-mère. Et ces petits deux anges, ils méritent. Il mérite beaucoup mieux de ce qu'on a aujourd'hui.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Barbara Hendricks. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, réalisation Jean-Christophe Francis, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.